quitte à présent la France, mais pas l'Allemagne, pour la deuxième partie de cet épisode avec Silent Friend, un film sorti il y a tout juste une semaine, réalisé par la Hongroise Ildikó Hegyedi. Alors l'ami silencieux du titre anglais de ce film hongrois tourné en allemand avec un acteur hongkongais notamment, l'ami silencieux de Silent Friend, c'est le Ginkgo Biloba bicentenaire du parc d'une université allemande, université dont on n'a jamais le nom, personnage principal mais discret d'un film où l'on suit trois histoires différentes. Cette présence permanente, qui paraît éternelle, contraste fortement avec le ou la protagoniste de chacune de ces trois histoires, qui se déroule, qui arrive donc dans cette université, dans ce monde dont ils n'ont pas les codes. Donc le film commence par l'histoire qui se déroule en 2020 avec Monsieur Wong, incarné par Tony Leung, grande star du cinéma hongkongais, qui incarne donc ici un professeur hongkongais de neurologie invité à donner un cours, un séminaire probablement dans cette université, et qui se retrouve bloqué sur le campus désert pendant la pandémie de coronavirus, connard de virus. Puis nous découvrons celle de Grete en 1910, première étudiante admise dans cette université dans un monde misogyne donc. Et enfin celle de Hannes en 1972, qui vient de la campagne et n'a quant à lui pas les codes des mobilisations politiques de l'époque où il se retrouve. Ces trois récits ne nous sont pas racontés sur le mode du film à sketch, mais plutôt sur celui de l'entrelac, moyen peut-être de restituer une perception végétale du temps, différente de la nôtre, peut-être stratifiée comme un tronc d'arbre et non plus linéaire, non plus chronologique. La perception, le langage, la compréhension de la nature, voire la possibilité de communiquer avec elle, sont d'ailleurs les thèmes plus ou moins au cœur des trois histoires et du quatrième film en fait que constituerait Silent Friend lui-même à une échelle macroscopique. Cependant, si elles se rapprochent par certains aspects des thèmes qu'elles abordent, ces histoires diffèrent dans leur forme, qui chacune s'adapte aux techniques du temps qu'elles filment. Si le format numérique est utilisé pour filmer l'année 2020, où s'intercalent aussi images de synthèse des racines du ginkgo et des échographies de plantes et de l'activité cérébrale, l'année 1972 est filmée en pellicule 16 mm et l'année 1910 en 35 je crois, et en tout cas en noir et blanc. Film très long qui dure près de 2h30, Silent Friend raconte mille et une choses dans un débordement minimaliste, particulièrement reposant et même apaisant, à condition d'avoir une prédisposition à la méditation cinématographique métaphysique. Nous sommes loin en effet d'une célébration empirique du quotidien, comme dans Perfect Days, auquel on peut parfois penser, puisque Monsieur Hirayama, le personnage principal du film de Wim Wenders, nettoie tout de même les toilettes dans la plus grande agglomération du monde et interagit, même brièvement, avec ses contemporains. Et si jamais quelqu'un de débordement m'écoute, eh ben j'ai pas envie de savoir son avis sur le film, je le connais. Ici, le cadre clos de l'université et de son parc, dont ne sortent quasiment jamais les personnages qui s'y trouvent, font de l'université une sorte d'hétérotopie, en tout cas d'un refuge hors du monde et hors de son bruit. Comme en réaction à une fureur mondiale devenue banale, on force le décentrement, Ildikó Hegyedi force le décentrement et nous invite à prendre le point de vue de cet arbre, son recul, sa sensibilité aussi de cet arbre, de ce géranium, ou bien de plantes exotiques. Alors, si Aubry était là, sans doute parlerait-il de ces questions de matière mieux que nous le ferons, mais nous nous y essaierons tout de même, n'est-ce pas, cher Corentin ? Donc, à titre personnel, c'est un film très beau, parfois sublime, parfois ridicule, très intéressant en tout cas, qui m'a plu, qui m'a touché dans quelques-unes de ses propositions et que j'ai vu dans les dispositions nécessaires à sa bonne appréciation, je pense. Après, on vient de le dire en off, dans le générique de cette émission, on entend Albert Jean-Jean de Dieu seul me voit dire « c'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film ». C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire de Silent Friend. Qu'en est-il en tout cas pour toi, Corentin ?
C'est un très beau film, hein. J'en ai rien à foutre. Mais c'est un très beau film, voilà. disons que je l'ai vu, je n'étais peut-être pas dans les très bonnes aussi dispositions au niveau de physique, quelque peu fatigué, hein, on va pas se mentir. Et les 2h30 n'ont pas aidé. Le film n'est pas particulièrement difficile à suivre. Hein, il est intéressant, il prend son temps, il prend le temps du végétal, et ça j'ai trouvé ça pas mal, c'est-à-dire que sur le plan du phénomène, le végétal apparaît et cet arbre donc de l'université apparaît comme le témoin de ces vies humaines qui traversent le siècle, aussi à partir d'une perspective, on peut dire, écologique, d'un cinéma en fait aussi qui prend à bras le corps ces thématiques là d'une écologie et d'un impératif écologique, c'est-à-dire que le végétal traverse le siècle de 1908 à au Covid et c'est pas sans rappeler on va dire une certaine datation de non pas, je dirais pas l'anthropocène, mais de ce que certains ont pu appeler le capitalocène, c'est-à-dire un temps une ère censée être géologique, ici une nouvelle ère géologique liée aux activités humaines et donc plus précisément là aux activités productivistes qui ne sont pas montrées dans le film, hein, mais à ces activités-là qui dégradent la nature et en fait qui montrent l'impact avant tout que l'action humaine a sur la nature, un impact indéniable, même si certains nient encore l'évidence en disant que c'est naturel aussi ce réchauffement ou ce refroidissement, ce sont des cycles naturels et que l'homme n'a rien à voir avec tout ça. Là, non. On prend, je trouve ça intéressant de prendre donc ce témoignage végétal d'un siècle qui est quand même particulièrement chargé en tragédie humaine, mais en tragédie du coup écologique et écocide, un siècle écocide encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que le terme a été créé. Mais je me pose également une autre question, c'est-à-dire dans quelle mesure le film, et je pense à son deuxième segment en fait surtout, c'est-à-dire le deuxième segment des années 70, n'anthropomorphise pas un peu le végétal, c'est-à-dire que le végétal ne serait-il pas un prétexte pour évoquer avec une sorte de distance scientifique qui rappellerait celle d'un René dans Mon oncle d'Amérique, les relations entre les humains, la distance, l'incommunicabilité des sentiments entre ce jeune homme, voilà, comme tu le disais, qui n'a pas les codes de la vie étudiante en ville, qui s'engage, très politisé, lui qui vient de la campagne, qui a même développé une sorte de relation de répulsion vis-à-vis de la campagne et qui aussi n'est pas à l'aise avec ses sentiments vis-à-vis de cette jeune femme qui s'occupe dans sa chambre de ce géranium de façon plus ou moins scientifique, là aussi, et c'est quand même. Là, ça accompagne l'époque, c'est-à-dire que cette jeune femme mène des expériences scientifiques sur son géranium, dans sa chambre. Le monde institutionnel de l'expérience scientifique est décloisonné pour se retrouver vraiment dans l'intimité. En fait, l'expérience scientifique devient une expérience intime et en fait, est liée indéniablement à la vie qu'on mène et à la vie qu'elle mène, elle. Et dans cette relation qui est créée, c'est drôle à dire, mais avec le géranium, il y a quelque chose.
Le géranium est super. Le géranium
est à l'écran. Et génial, mais il y a quelque chose d'un peu anthropomorphisé, je trouve. Il apparaît vraiment comme un personnage mignon. Un personnage mignon, touchant. Et qui semble ressentir, ou du moins sentir, presque à l'image de l'être humain. Disons qu'il y a des champs contre champs qui me font dire, ok, il y a un raccord regard. Le géranium n'a pas de regard, mais il y a un raccord regard. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment trouver alors le champ contre champ sans raccord regard avec un raccord proprement végétal? Ça, je ne sais pas.
Oui, c'est assez intéressant d'ailleurs ce que tu dis là, parce que ce phénomène d'anthropomorphisme, il est très présent dans ce deuxième film, moins peut-être dans les deux autres segments, en tout cas. Très peu dans le film de 1910, mais qui ne semble pas avoir non plus tant que ça la question du végétal en son cœur. On est plus sur cette trajectoire, alors pas très didactique, un petit peu, mais pas trop non plus, d'une étudiante qui arriverait pour la première fois à l'université et qui se forme à la photographie et on ne sait pas exactement sur quoi portent ses recherches finalement, en tout cas dans mon souvenir. Et puis, du côté des années 2020, du côté de ce qui se passe avec Monsieur Wong, donc avec Tony Leung, le film semble trouver un langage pour représenter le ressenti, les émotions du Jinko Biloba.
Mais quitte à en faire un peu trop, je trouve aussi.
Quitte à en faire un petit peu trop, mais qui en même temps, pour le coup, est aussi une tentative de recherche formelle. C'est-à-dire que il y a une certaine façon dans le dispositif du géranium, donc dans l'histoire qui se passe dans les années 70, qui est effectivement très anthropomorphique, avec un dispositif qu'on connaît en fait, même qu'on a vu dans des films qui représentent un détecteur de mensonges, une espèce de sismographie en fait, quasiment des émotions du géranium. Là où pour le Jinko Biloba, en tout cas, il y a des tentatives, des essais de recherche formelle, d'appréhender la communication sur un mode nouveau dans la diégèse du film, mais aussi sur un mode nouveau visuellement dans la création du film de Illico Agnelli. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, je trouve que ce premier segment, donc, qui est le dernier sur le plan chronologique, n'échappe pas tout à fait ce retour à l'homme, dans le sens où il me semble que lorsqu'il mène ses expériences sur cet arbre, ces expériences qui sont en dehors du cercle de ses compétences à lui, puisque lui, il fait de la neurologie, et pas, il ne s'intéresse pas au monde végétal, il ne fait pas de biologie, quoi, à la vie en général, eh bien, ces expériences ne sont pas concluantes. D'ailleurs, on le regarde comme un fou. C'est le gardien, en quelque sorte, de ce jardin, de ce parc, qu'il regarde comme un fou. Il y a une certaine distance de la langue aussi. Quand je parlais aussi d'incommunicabilité, aussi de manque, enfin d'indisponibilité ou d'incapacité de communiquer aussi de façon très pragmatique, parce que la langue n'est pas la même.
Et qui fait aussi le décalage de ce personnage, enfin, qu'on a avec le fait que c'est une étudiante qui arrive dans un monde d'hommes, et avec un mec de la campagne qui arrive dans un monde très politisé de ville aussi. Enfin, ça va dans le sens aussi de, comment dire, de la structure générale du film.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que son expérience à lui, à Tony Leung,
oui,
elle n'est pas concluante au début.
Oui, d'accord.
Et elle ne le devient que lorsqu'il y a cette sorte de réconciliation entre les deux hommes, lorsqu'ils vont pouvoir parler pour la première fois, d'ailleurs, grâce à Google Traduction. Merci la technologie. En tout cas, il y a cette attente d'une réalisation de l'expérience, et en fait, elle ne peut aboutir que lorsque les éléments, ou disons la matière, au sens général, retrouve son unité.
Oui.
C'est-à-dire la matière aussi, je veux dire, même dans ce qui circule des êtres humains, dans le rapport aux êtres humains, on pourrait dire que c'est de l'immatériel. Mais en tout cas, pour que l'expérience fonctionne, soit menée à bien et qu'elle soit concluante, en fait, qu'on puisse en tirer des conclusions, il faut qu'il y ait unité de ce monde naturel-là.
Oui. C'est assez juste. Ce dont on peut aussi parler, et qu'on avait évoqué en sortant du film d'ailleurs, toi et moi, c'est les ponts que ça peut qu'on peut voir, en tout cas avec un film sorti récemment, sorti en janvier, qu'on avait recommandé, que j'avais recommandé à cette tribune, Les Échos du passé de Masha Chilinski, qui est aussi un film allemand, donc en allemand, et où on a en fait plusieurs récits, plusieurs générations de récits qui vont et viennent, qui s'entrelacent, mais le film de Chilinski semblait prendre en fait le point de vue de la maison qui a abrité quatre générations d'une même famille. C'était moins revendiqué, comme là on est censé avoir le point de vue de l'arbre entre guillemets, mais c'est mon avis sur ce film. Maison dans les couloirs de laquelle se créaient de secrètes résonances et qui rejouaient des traumatismes violents en fait aussi vécus notamment par les femmes de cette famille. Donc cette maison, elle était plutôt dans le registre de la douleur, là où le Jinko Biloba de Silent Friend est dans le registre de l'apaisement, du calme. Et en prenant comme repère cet arbre, le film d'Ildiko Agnelli, il est moins violent que Les Échos du passé, alors même qu'il pourrait l'être, hein, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont pas dites ou pas montrées. Alors ok, il y a une misogynie très forte lors de l'entretien d'embauche entre guillemets de l'étude de Grete en 1910, mais sinon on n'a pas grand chose d'autre. La distance qu'il y a entre le gardien et Tony Leung, bah, elle pourrait aussi être motivée par un racisme tout simplement, c'est pas un enjeu. Bref, donc en prenant comme repère cet arbre, le film d'Illico Agnedi est moins violent aussi parce qu'il imagine la nature comme une observatrice distante des vies humaines. Mais alors que pourquoi pas, hein, si on peut reparler d'ailleurs, mais alors que la maison est un point d'ancrage auquel il est impossible d'échapper dans les échos du passé, jusqu'à ce que d'ailleurs la dernière famille, la dernière génération la démolisse en partie, en tout cas fasse des travaux à l'intérieur, et que le film de Chilinski ramène toujours tous ses personnages, c'est moins net et peut-être moins réussi pour l'arbre dans Silent Friend, puisqu'on s'en éloigne parfois un peu trop, comme dans les scènes pourtant belles dans le cabinet de photographie en 1910. Ce qui donne un petit peu du coup à ce procédé de l'arbre, tu parlais d'anthropomorphisme, bah, un côté cosmétique en fait aussi, c'est-à-dire qu'on sent moins la nécessité de lier entre elles ces histoires, de les lier par ce personnage d'arbre. On voit moins le côté, oui, nécessaire de la construction narrative on voit moins la nécessité des liens logiques dans la construction narrative de Silent Friend, qui semble plus fondée sur l'arbitraire de la réalisatrice, là où, dans les échos du passé, même les apparentes coïncidences prenaient toutes vers la fin un sens toujours plus ravageur. Enfin, c'est à mon avis.
Oui, tu parlais de la photographie, du fragment photographique. Je trouve ça. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'autant plus que il y a une sorte de comment dire, de retournement de ce qu'on dirait traditionnellement de la photographie, c'est-à-dire on parle ici de phénomènes, enfin on a une approche des choses dans le film avec la neurologie, avec la biologie, les phénomènes humains physiques expliqués, on va dire en soi quoi. Et la photographie ici, elle serait décrite comme le phénomène chimique, voilà, de copie de la réalité telle qu'elle pourrait apparaître à un instant. Et j'aime, moi, comment cette idée est, telle qu'elle nous apparaît, est retournée contre elle-même dans le sens où l'idée que les portraits sont censés traverser les époques et actent du coup de l'existence d'un être qui a été incarné, quoi, d'un être visible. Elle est quelque peu, enfin, subrepticement retournée dans un dialogue où on nous montre, où le maître explique et montre que les clients souhaitent être retouchés, qu'ils aiment être beaux en fait et garder d'eux une image belle. Donc la photographie déjà, elle transforme, elle travaille et elle module aussi une image de soi, c'est-à-dire elle est pas tant une copie de la réalité aussi qu'un miroir que l'on pourrait qu'un miroir tendu que l'on pourrait déformer soi à souhait, mais déformer ou plutôt remodeler à souhait. Et il y a cette chose très belle, je pense, que le végétal aussi a ce pouvoir-là très similaire à la photographie, très photochimique en fait, d'agir en fait d'interaction entre la lumière et donc la matière en fait de la matière végétale qui je pense notamment en fait à des procédés photographiques qui utilisent le végétal comme l'entotype, donc processus photographique qui permet de créer, voilà, des images à partir de la réaction entre les pigments contenus dans les végétaux et la lumière du soleil. Bon, on ne l'a pas, on n'a pas ça dans le film, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas échapper à cette idée que je n'ai pas l'historicité de ce procédé-là. Je ne sais pas s'il est arrivé, s'il a été tenté, il a sûrement été tenté avant le phénomène photographique. D'ailleurs, en laissant en fait une feuille au soleil, on peut y voir des marques, on peut y voir des traces, on peut y voir un squelette. Ce sont des expériences qu'on a pu tenter. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi en art plastique, ça m'est arrivé en classe de sixième, je crois. Mais en tout cas, il y a aussi, la photographie ne sort pas de nulle part, et il y a une certaine continuité photochimique du fait que la photographie n'est pas totalement le témoin d'une époque précise, c'est-à-dire que la photographie est aussi une image que l'on peut se renvoyer, que l'époque se renvoie au futur, cherche à se renvoyer au futur, et que dans ce cas-là, le végétal serait un témoin, même si pas sur le même plan phénoménologique, puisqu'il ne nous, laisse pas une trace, on va dire, visible à première vue, serait un témoin beaucoup plus fidèle, et je trouve que c'est là que c'est beau de prendre l'arbre comme témoin, pas prendre l'arbre à témoin, mais comme témoin, et c'est pour ça que je pense que le dernier plan, notamment, est assez réussi. C'est le plan, je pense, qui me touche le plus et qui malgré tout, malgré le kitsch en quelque sorte que peuvent avoir certaines scènes comme Tony Leung nu sous la pluie à côté d'un arbre, défoncé, puisqu'il là encore une fois un phénomène physique se produit dans son organisme grâce à l'injection de substances végétales psychotropes, voilà,
de la psilocybine, on peut le dire. C'est pas une invitation à en consommer,
voilà. Et donc on est dans la continuité du phénomène physique, donc chimique, pardon. Et ce dernier plan là de l'arbre majestueux, alors j'ai plus, c'est pas un plan fixe, hein. Non, c'est la caméra tilt. Il y a des zooms.
Que moi, c'est vraiment juste un pur travelling arrière ou un dézoom.
Moi, il me semblait que c'était un dézoom. Et puis, non, il y a le tilt pas, mais on voit le ciel petit à petit.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que l'arbre est tellement immense, ouais, que pour le contenir, il faut faire entrer le ciel dans le plan.
C'est ça.
Parce qu'elle veut vraiment que le. Jusqu'au bout des branches de cet arbre désormais colossal en 2020 soit gigantesque. Non, c'est très intéressant tout ce que tu dis, et pour revenir sur la photographie, moi ce qui m'intéresse aussi dans le film, c'est la façon dont il déploie une forme d'archéologie des médias aussi, puisque chaque histoire en fait met en scène un nouveau dispositif d'enregistrement du monde naturel, photographie et tout ce que tu viens d'évoquer pour le 1910, mais ce système graphique, sismographique dans les années 70, et puis les questions d'échographie numérique en 2020, qui voilà, font partie peu à peu aussi d'un travail formel, en tout cas mené par la réalisatrice, mais qui fait que là, je te rejoins sur ce que tu disais sur un tout autre sujet, donne l'impression que le segment des années 70 est peut-être le moins convaincant là-dessus, parce que formellement, c'est pas très très... pas très très marquant, on est plus sur
un sismographe
et narrativement ça devient un personnage, quoi, le géranium, alors qu'on a des clichés vraiment magnifiques pris vraiment sur plaque argentique en 1910, et puis moi ces trucs qui m'intéressent, voilà, d'échographie multicolore menée par Tony Leung sur le Ginkgo biloba. Non, moi, parmi les trucs qui m'ont intéressé, donc t'as longuement parlé de la photographie, donc j'y reviens pas, même si c'était donc avec ce personnage de photographe chauve, même très émouvant dans un sens, ce qui se passait entre lui et cette jeune femme qu'il forme à la photographie. Mais moi, ce qui m'a intéressé le plus dans cette histoire, c'est le récit de 2020, quand même, j'avoue, les instants de quotidienneté actuelle. De notre actualité, en fait, même à nous, étudiants, étudiantes, parce que moi, tout le début du film m'a vraiment touché. Je pensais que j'allais être beaucoup plus emballé par le film que je ne l'ai été, qui m'a plu, et je pense plus qu'Quentin. Tout ce que Monsieur Wong peut raconter, par exemple, du psychisme des nourrissons est très beau, mais j'ai aussi été ému par une scène assez simple, assez silencieuse, accompagnée d'une musique qui est bien, d'ailleurs, la musique du film, qui le montre dans la cafétéria de l'université, observant juste tout simplement la vie étudiante autour de lui. Et c'est une de ces scènes qu'on a chez Joachim Trier, chez Claude Sautet, où le personnage juste est dans un café et il entend la vie et le bruit de la vie, et il est filmé depuis l'extérieur, en tout cas derrière la vitre. Et là, il y a une captation par ce personnage d'un moment assez banal mais très réussi, et moi qui m'a... je ne saurais pas forcément vous dire pourquoi, je ne saurais pas comment le commenter, l'intellectualiser plus profondément que ça, mais c'est un des passages qui fait que ce film pour moi n'est pas oubliable non plus. Et voilà, moi je pense que j'aurais aimé qu'on passe plus de temps avec ce personnage de Wong, peut-être parce que c'est, enfin, donc incarné par Tony Leung, parce que c'est peut-être quand il nous parle des années 2020 que le film est le plus juste. Et à ce titre, il m'a beaucoup fait penser à un film qui est sorti il y a 2 ans, que je vous recommande d'ailleurs très chaudement parce que c'était un de mes films préférés de 2024, Here, du belge Bas De Vos. Here qui me semble plus réussi parce qu'il faisait plus directement en fait, l'hypothèse de la simplicité, ce qui n'est pas le cas de Silent Friend, hein, parce qu'en dépit de son côté minimaliste, il a énormément d'ambition, à la hauteur de laquelle il ne se soulève pas toujours, et qui faisait voilà, une hypothèse de la simplicité en suivant 2 étrangers en fait, dans Bruxelles, un ouvrier roumain, je crois, et une jeune biologiste chinoise qui se rencontraient par hasard et arrivaient en fait, à communiquer par la biologie, justement, et par l'attention portée à l'humus dans une forêt de la banlieue bruxelloise. Et c'était vraiment très, très, vraiment très beau, vraiment magnifique, et d'autant plus fort que, comme je le disais pour Perfect Days plus tôt, Here de Bas De Vos, ça n'ignorait pas le monde alentour. Ça mettait dans son histoire une émotion qui est un peu absente, plus absente qu'elle passait dans Here par les corps. Et ici, en dépit de plusieurs tentatives, eh ben, on manque de corps, on manque d'émotion, je trouve, en dehors, bien sûr, donc de Tony Leung nu sous la pluie et sous LSD. Voilà, c'est tout pour Silent Friend, d'Idlico Agnodi, qui est en salle depuis une semaine, qui va peut-être pas rester longtemps. Allez-y pour vous couper du monde pendant 2h40, et à nouveau pour nous donner vos ressentis, puisque c'est la dernière fois que l'on pourra vous écouter la semaine prochaine. Et dans un instant, ce seront les derniers conseils de la saison 3 du Comptoir du Cinéma. Ce sont donc les conseils pour cette semaine. Corentin, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Quels sont tes derniers coups de cœur ? Qu'est-ce que tu n'as pas envie qu'on manque ? Voilà.
En ce moment, c'est bientôt terminé, donc ça s'annonce. Il va falloir y aller, hein, assez vite, pardon. Et en ce moment, il y a une rétrospective, rapide. Lucrécia Martel, elle n'a pas énormément fait de films, elle a commencé au début des années 2000. Mais son premier film, La Cienaga, Le Marécage, a été présenté jeudi dernier, si je ne me trompe pas, en présence du coup, de Lucrécia Martel. C'est un film extrêmement intéressant, extrêmement déstabilisant, parce que il en ressort il vous travaille et il vous nourrit pendant plusieurs jours, vous y pensez, vous y repensez. C'est encore un film qui travaille la matière, décidément. Un film qui est tourné, me semble-t-il, en 16 mm, ou du moins au format analogique. Et qui travaille cette matière-là dans un environnement clos, juste à côté d'une forêt, tropicale, donc en Argentine, film argentin, j'ai oublié de le dire, où on a toute cette torpeur, ce côté très moite, ce côté très croupi aussi, de l'eau, des feuilles dans cette eau sale de la piscine, de la boue également, où s'enfonce le bétail, quelque chose d'extrêmement organique là-dedans, également vis-à-vis du son, et semble toujours tourner comme des oiseaux, comme les cris des oiseaux, quelque part autour. Et donc ce cercle extrêmement, extrêmement restreint s'intéresse à une famille, et je serais bien en peine d'en faire le résumé, puisque il n'y a pas tellement, enfin l'intrigue est réduite à son strict minimum. On en voit juste les suintements, on va dire, de peau, des forces de la famille qui se travaillent, qui se chamaillent, qui sont extrêmement toxiques en fait entre elles. Et c'est un film extrêmement étonnant. Enfin, j'utilise beaucoup de superlatifs, mais c'est vraiment à voir. C'est une expérience étonnante, donc à découvrir en salle si vous le pouvez. Et en fait, c'est le mieux en salle, parce que encore une fois, s'il n'y a pas, parce qu'il y a cet aspect très immersif en fait, s'il n'y a pas cette implication de soi dans la séance, on peut vite forcément décrocher, je l'imagine. C'est mieux s'il y a ce rapport à la salle, quoi.
Et pour je vais pas faire dans l'originalité puisque je vais reprendre des conseils que j'ai fait dans que j'ai donné dans cette émission. Voilà, je vous recommande très fortement d'aller voir, d'aller lire les œuvres d'Éric Vuillard qui sont toutes publiées chez Actes Sud, pour sauf les deux toutes premières, toutes publiées chez Actes Sud dans la très belle collection Un endroit où aller. Si elles, ce sont des récits très courts, rarement font, qui font rarement plus de 200 pages, et quand, si vous avez en tête le format des volumes Actes Sud, vous comprendrez que 200 pages, ça se lit vraiment très 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 vite. Ce sont des formes, ce sont des livres assez assez longs en fait, plus que, enfin, bien moins larges que les longs en termes de forme, pardon, bien moins larges que des folios par exemple. Bref, celles sont et puis c'est disponible évidemment en Babel aussi, donc en format poche chez Actes Sud. Ce sont, je le disais dans ma chronique sur Les rayons et les ombres, des livres écrits brillamment, avec un style qui, je pense, est pour moi l'un des meilleurs de la littérature française actuelle. Il a reçu le prix Goncourt en 2017 pour L'ordre du jour. Donc, si vous êtes auditeur, auditrice des émissions de Joanne Chapoutot, et que vous aimez ça, c'est un livre qui vous plaira sans doute, certainement. C'est un auteur qui est à la fois conscient des limites du pouvoir de la des pouvoirs de la littérature et ne peut pas se résoudre à être autre chose qu'un écrivain engagé, mais dans le meilleur sens du terme. Pas non plus un engagement mièvre, non. C'est un styliste radical, mais ce style est au service d'une pensée politique elle-même radicale. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, on peut parfois s'énerver contre lui-même, mais le plus souvent, on ressort de ses livres avec une rage folle, avec la haine de tous ces gens que lui-même aide, et des puissants sont les vrais fascistes, finalement. C'est un auteur qui, dit, ce qui devient une take controversée, que les fascistes sont les vrais fascistes, que les capitalistes aussi, et ça, c'est vraiment très 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 fort. Voilà, donc si vous voulez commencer l'œuvre d'Éric Vuillard, moi je vous recommande de passer par Congo, qui est le plus court, mais un des plus puissants, un vrai coup de poing dans le ventre, en gros. Puis une sortie honorable, son avant-dernier, sorti en 2022 sur la guerre d'Indochine, mais qui est vraiment vraiment très 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 bon. Puis là, elle vient d'en sortir un que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté depuis dès sa sortie quasiment, et qui est là sur ma bibliothèque et qui m'attend, et j'aimerais en avoir bientôt le temps de le lire. Les orphelins, qui parle de Billy the Kid, puisqu'il a beaucoup traité l'histoire de l'Europe, ce sont tous ceux que j'ai lus, mais aussi l'histoire de l'Amérique, avec donc Les orphelins sur Billy the Kid et Tristesse de la Terre sur Buffalo Bill et le génocide des Amérindiens. Voilà, donc tous ces conseils, enfin nos deux conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les Corentin, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci à vous, auditeurs et auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour notre 75e épisode, dernier épisode de la saison 3, dernier épisode que je présenterai, où l'on parlera de, notamment... de cinéma espagnol, cette fois-ci avec Romeria de Carla Simone. On parlera aussi de plein d'autres choses à l'occasion donc, de cette fin de saison. Rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après, puisque ce sont les vacances ici à Lyon, donc on verra bien comment tout cela s'organisera. Ce sera disponible quoi qu'il arrive, vous le savez, n'ayez pas peur, sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, mais surtout n'hésitez pas, mais plutôt pour la rentrée. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.